tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio O2, la radio des Hautes-Garonne 91.3. Au sommaire de notre émission, nous parlerons cuisine polonaise avec Emeline. Bonjour Emeline.
Salut.
Nous parlerons jeux vidéo aussi. Merci Madame Jeux vidéo.
Mais de rien.
Ensuite, je vous raconterai une petite histoire sur ce qui s'est passé il y a un tas d'années, mais le même jour. Puis nous passerons à l'actu européenne avec Guillaume.
Bonjour David, bonjour à tous.
Et enfin, l'agenda avec Ingrid.
Bonjour.
Bon, on va commencer tout de suite avec la cuisine polonaise.
Oui, aujourd'hui c'est au tour d'une table polonaise que j'aimerais vous faire asseoir. Quelques mois passés près de Varsovie m'ont laissé nostalgique des déjeuners à 15h. Que l'on mange en regardant la neige par la fenêtre, quand on est rentré chez soi et que les doigts, au contact de la porcelaine brûlante, rougissent et piquent fort tant il faisait froid dehors sur le chemin du retour. La cuisine polonaise, c'est typiquement ce que vous voulez manger quand affronter l'hiver vous demande beaucoup d'énergie ou quand une longue journée de travail vous attend. Ça tient au corps, c'est chaud et parfois roboratif, mais c'est aussi plein d'arômes et de fumée qui rendent le tout fin et digeste. Il y a bien quelques étapes typiques et immanquables lors d'un repas, que ce soit en famille ou à la cantine de l'école. Alors on a une soupe en entrée, évidemment. Ça peut être un bouillon avec un très fort parfum d'aneth. Je ne sais pas si vous aimez ça, moi j'ai eu du mal à m'y faire. Ou bien encore le fameux zurek. C'est un velouté au seigle fermenté avec des œufs durs et des saucisses qui flottent dedans. C'est délicieux, mais ça a surtout des vertus au lendemain de soirée, croyez-moi. Dois-je mentionner le célèbre borscht rougeâtre, si réconfortant avec son goût acidulé de betterave? La Pologne, comme beaucoup de ses voisins, use et abuse du chou et des pommes de terre à table. Alors leur grande consommation a quand même permis aux Polonais de devenir très imaginatifs. Vous n'échapperez donc pas au bigos, cousin de la choucroute, ni à la soupe au lard au chou, ni aux pâtes fourrées aux pommes de terre et au chou, ou encore au chou farci aux pommes de terre. Attention, petite variation ce coup-là. Bref, des combinaisons infinies, ouais. Et c'est toujours aussi bon. À côté de ça, n'imaginez pas disposer d'une heure pour avaler le tout. À l'école ou au travail, on expédie son déjeuner en 10, voire 20 minutes maximum, sandwich, pommes et basta. Le turnover des selfs dans les écoles où je travaillais m'ont souvent impressionné. Ça change toutes les deux minutes d'élèves. La nourriture servie sur mon plateau m'a impressionné aussi d'ailleurs. Souvenir le plus insolite, en plat principal, tenez-vous bien, une plâtrée de pâtes baignant dans du yaourt à la framboise. Sacré lèche pour les Italiens. Cependant, si la journée est terminée vers 15-16 heures, il y a un ami qui vous invite chez lui, il vous servira plutôt des harengs marinés ou des légumes du jardin conservés dans du vinaigre. Et si vous êtes plus thé que bière à 7 heures de l'après-midi, on vous proposera plutôt du cernik, un cheesecake très blanc et plutôt léger. Il y aurait encore beaucoup à décrire et à sentir fondre sous le palais pour vous présenter la cuisine de Pologne. Mais le plat symbolique et incontournable que vous connaissez peut-être et que je ne peux pas éluder aujourd'hui, ce sont les pierogi. Les pierogi, je vois Philippe en régie qui fait une manifestation de la joie, car il adore ça.
On le comprend.
Les pierogi, ce sont des gros raviolis farcis au fromage, à la viande, aux patates, parfois même aux fruits, qui sont bouillis ou poêlés. C'est l'assiette du réconfort avec une couverture sur les genoux dans les rues de Varsovie. C'est le geste pour refermer la pâte autour de la farce qu'on a vu reproduit 100 fois de suite par la même babcia, la même grand-mère, dans sa cuisine, quand vient Noël et que toute la famille réapplique. C'est le goût que j'ai essayé de reproduire ce week-end dans mon assiette, quand la pluie qui frappait au carreau me rappelait que la neige et les moins 20 degrés étaient bien loin de Bordeaux. Alors si vous aussi vous avez envie de croquer dans un petit morceau de Pologne, sans abîmer le beau visage de Jan Gilaski qui n'est pas avec nous aujourd'hui, vous pouvez suivre cette recette très simple donnée par mon ami Dominika. Alors pour les pierogi, pour la pâte, il vous suffira de mélanger 3 verres de farine de blé avec un verre d'eau très chaude, attention aux mains au début si vous mélangez à la main, un peu de sel, un œuf et 2 grosses cuillères à soupe d'huile, genre tournesol, olive, quelque chose de neutre quoi. Quand ça vous donne quelque chose de plutôt lisse et homogène, vous pouvez l'étaler au rouleau et découper à l'emporte-pièce des cercles de approximativement 7 ou 8 cm. Et pour la farce, je vous propose celle des pierogi dits ruskie à la russe, la plus simple et la meilleure à mes yeux. Juste quelques pommes de terre que vous écraserez grossièrement avec du fromage frais, à peu près 300 grammes pour 30 pierogi, un oignon que vous aurez fait suer en brunoise à la poêle, du sel et du poivre. Il n'y aura plus qu'à déposer une cuillère de ce mélange-là au cœur de vos cercles de pâte et à replier un côté sur l'autre en pinçant le bord pour obtenir une demi-lune. Les pierogi se font cuire dans une casserole d'eau bouillante. Comptez 2 minutes une fois que les ravioles sont remontées à la surface. Moi, je préfère ensuite les passer à la poêle avec des petits morceaux de lard pour qu'ils soient plus croustillants. Smacznego, vous êtes en Pologne.
Merci beaucoup Maïté. On passe tout de suite aux jeux vidéo avec Héloïse, une autre forme de plaisir.
Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur les ondes pour une chronique jeux vidéo, vous l'aurez deviné. Et j'espère sincèrement qu'à la fin de cette fréquence vous aurez cédé au Flower Power. Trêve de plaisanterie, en 2018 l'écologie est toujours un engagement phare pour les citoyens de l'Union Européenne. Vous l'aurez donc compris, l'écologie sera donc le thème du jeu que nous aborderons ici. Car oui, derrière l'image tenace et un tant soit peu cliché du joueur rompu au maniement des armes virtuelles, il y a un petit cœur qui bat. Mais surtout, il y a des joueuses et des joueurs voulant voir des œuvres engagées, rendant ces lettres de noblesse au 10e art qu'est le jeu vidéo. Car oui, ce média est véritablement un art, et le jeu Flower nous le prouve. Disponible sur PS4, Flower est tout à fait europhile, puisqu'il a été édité par 505 Games, une compagnie de production vidéoludique italienne. Sorti en 2009, il obtient en 2013 le Game Award du meilleur jeu indé. Dans Flower, nous partons pour une balade bucolique. En effet, nous incarnons un pétale. Un pétale, absolument, qui durant notre partie se laissera bercer au gré du vent. Ici, aucune indication ne vient surcharger votre écran. Vous vous contentez de souffler sur ce pétale pour que celui-ci s'envole. Il fera alors éclore toutes les fleurs à proximité desquelles il passera. Un nouveau pétale viendra ensuite le rejoindre dans sa promenade. Et vous finirez ainsi par diriger une longue farandole multicolore s'étirant gracieusement dans les airs. Votre manette utilisera la fonction du trackpad. Mais si vous le savez, c'est la même technologie que la Wii. Bien loin d'un gameplay énergique, ce jeu est donc un appel à la méditation et à la réflexion. Les 6 niveaux que vous propose Flower sont une éloge au calme et au temps qui passe. Un jeu aérien où a priori rien d'important ne se déroule, sauf pour celui qui sait y regarder de plus près. Durant notre session, on ne maîtrisera rien, car les décors défilent de découvertes en surprise. Des parties certes lentes, mais pourtant peu ennuyeuses, car c'est ça le principe de Flower, des ambiances douces et changeantes qui tiennent le joueur et joueuse en éveil. Le théâtre de ce jeu, c'est la nature, et nous devons faire avec. Nos personnages principaux sont le vent et le pétale, et c'est eux qui définissent le mouvement de la partie. Parfois, le vent s'accélère, comme lorsqu'il fait frémir les branches d'un arbre, et parfois, il se ralentit, comme dans les paysages des plaines aux grandes étendues verdoyantes. Ce jeu se déroule hors des villes, de sa grisaille et de sa monotonie. Flower semble nous inviter à admirer nos belles campagnes européennes. Parfois, les paysages sont situés, comme dans le niveau des alpages des Alpes, une des chaînes de montagnes européennes qui traversent en tout 9 pays. Et parfois, les lieux de nos décors ne sont point nommés, car ce sont des paysages universels, comme cette prairie parsemée de pissenlits et de pâquerettes. Mais la beauté de Flower n'est parfois qu'une illusion. Cette aventure nous met devant le fait accompli, car on y voit l'impact direct de l'homme sur la nature, pour le meilleur comme pour le pire. Dans certains paysages, la nature et l'homme cohabitent, comme ces champs où se mêlent la faune, la flore et les éoliennes. Puis, nous voilà transportés dans un reste de terrain où les fleurs se meurent, entourés de centrales nucléaires délabrées où même l'homme a déserté cet habitat. C'est à nous, petit pétale, d'interagir avec cette nature fragilisée pour lui insuffler un nouveau souffle de vie. Dans Flower, l'art est omniprésente. Ce jeu donne l'impression de plonger au cœur d'une véritable peinture, à l'image des tableaux impressionnistes représentant la nature, telle l'œuvre de Vincent Van Gogh, Chant de Coquelicot. Sous nos yeux, les couleurs éclatantes de ces tableaux prennent vie. En somme, ce jeu au gameplay simple et ludo-éducatif est accessible à tous, au plus grand comme au plus petit, car il suffit d'être un brin rêveur et un grain voyageur pour suivre ses aventures au cœur de la nature. Ce jeu est une invitation à la contemplation, avec pour toile de fond un univers onirique et poétique, qui longuement nous fera réfléchir sur l'avenir de notre belle planète. Voilà, c'en est tout pour moi, et c'est avec brio que je repasse le micro à David.
Merci beaucoup. Moi, je voulais vous parler d'une histoire que j'ai lue il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que son dénouement s'est tenu il y a très exactement 230 ans et c'était le 23 janvier, du coup, 1987. Deux ans déjà, ça va. Ça commence bien, on est d'accord.
Oui.
Le 16 août 1787. Le lieutenant du... Pardon ? Alors, on va pas s'en sortir. Le 16 août 1787, le lieutenant de vaisseau Williams Bligh prend le commandement du Bounty. C'est un gros vaisseau. On est d'accord, c'est pas une barre, à la noix de coco. Le navire appareille le 23 décembre. Appareillé, ça veut dire que ça y est, il s'en va enfin. Le début de la traversée est marqué par une tempête qui oblige le navire à relâcher à Tenerife, c'est-à-dire à relâcher ses hommes pour réparer et ravitailler. À cette occasion, éclate le premier conflit entre le capitaine Bligh et son équipage. À la suite de la disparition de fromage, Blight supprime les rations de fromage quotidiennes. Donc voilà, déjà ça s'annonçait un petit peu rude. L'équipage s'indigne car il suspecte que Blight d'avoir détourné ses fromages à son profit. Au cours de la traversée de l'Atlantique Sud, les mesures d'hygiène prises par Blight permettent de ne déplorer aucun malade et aucun mort. Ça, c'était une petite particularité de l'époque, parce que généralement, c'était du 50-50. Tu partais, déjà, tu étais censé partir entre 3 et 6 mois, et en plus, tu tirais ta vie à pile ou face. Il faisait procéder à la fumigation et à l'aération des entrepôts et au séchage des affaires personnelles. Afin d'économiser la nourriture, Blight décide de remplacer les 2 livres de pain quotidiennes par 1 livre de citrouille achetée à Tenerife. La répugnance de l'équipage vis-à-vis des citrouilles avariées provoque un nouvel accès de colère de Blight. Je vous raconte pas tout ça pour juste pour la beauté, mais c'est pour montrer que sur un bateau, il faut un gros esprit d'équipe et que le bateau soit tout entraîné par son capitaine, ce qui, au fil des mois, ne se passe pas. En avril, le Bounty se présente au Cap Horn. On est toujours sur le Bounty. Pendant un mois entier, au milieu de la tempête, le Bounty essaye de passer le Cap Horn. Les pompes sont mises en action tous les jours pour évacuer l'eau qui rentre dans le bateau. Et au bout de 30 jours de combat contre ces vagues, Blight renonce et décide de rallier Tahiti. Donc Tahiti, on rappelle, est à l'ouest du continent américain et le Cap Horn est au sud du continent américain. Il décide de passer par le Cap de Bonne-Espérance. Alors, petit quiz, de Bonne-Espérance, où est-ce qu'il est situé ?
En Afrique du Sud.
Exactement. Donc, représentez-vous que...
Bon courage au Bounty.
Voilà. Le bateau, plutôt que de passer par ce cap qu'il n'arrive pas à franchir, choisit de faire tout simplement un tour du monde. Le 23 mai 1788, le Bounty passe le cap de Bonne-Espérance, où il relâche pendant un mois encore, afin de permettre des réparations. Et le 20 août, le Bounty aborde les côtes de Tasmanie. Donc ça y est, on a fait quasiment la moitié du chemin à la pointe sud-est de l'Australie pour s'y réapprovisionner. On enchaîne. En octobre 88, après 10 mois de traversée, le Bounty touche la pointe Vénus au nord de l'île de Tahiti après 27 000 marins, ce qui équivaut grosso modo à 50 000 bornes. L'accueil des Tahitiens, qui se souviennent des passages des Cook et celui du capitaine Blight, est chaleureux. Mais rapidement, les vols continuels des Tahitiens, alors j'ai bien aimé cette citation, des chapardeurs nés, d'après James Cook, qui échangent en fait sans demander, en considérant les biens matériels comme futiles. Et ben ça oblige l'équipage à être méfiant et à surveiller le navire constamment quand il est au mouillage, donc quand il a l'ancre. Néanmoins, la douceur des gens de l'île, la grande libéralité des mœurs, on comprend ce que ça veut dire. La facilité du troc et la beauté de l'île contrastent fortement avec la rudesse des épreuves que l'équipage venait de traverser et le caractère inflexible et coléreux du capitaine Blight. Blight obtient de Tina, le chef des Tahitiens, l'échange de plans d'arbres à pin contre des hachettes, des limes, des vrilles, des scies et des miroirs. Oui, parce que pourquoi ils sont partis là-bas ? Pour aller chercher des arbres à pin. L'arbre à pin, en fait, ça va être un gros fruit que, quand on fait cuire, va se... toute l'humidité va disparaître et va ne laisser qu'une mie, en fait, à l'intérieur du fruit. Le fruit ressemble d'ailleurs à une calebasse. Voilà, pour le petit fun fact. La traversée ayant été plus longue que prévu, le Bounty arrive à la mauvaise saison et Blight est contraint de prolonger le séjour sur l'île. La récolte des arbres à pin va durer 6 mois. Ils seront conservés dans des pots et placés dans l'entrepont et tout est pour le mieux du monde. Mais quelques temps plus tard, Blight décide de s'approprier tous les porcs que l'équipage a ramenés à bord et ça provoque de nouveaux incidents. Les relations se dégradent de plus en plus, si bien qu'en janvier 89, le capitaine d'armes et les 2 matelots désertent le canot et s'emparent des armes, des munitions et des provisions. Pour chasser, ils se rendent le 22 janvier et malgré leur repentir, ils les condamnent à 24 coups de fouet. Donc un chat à 9 queues, ça s'appelait à ce moment-là, on n'est pas dans Naruto, mais ça y ressemble. Ça s'appelait le renard. Et pour le capitaine d'armes, 48. Cette punition est très mal acceptée par l'équipage. Et en fait, ça déclenche un accès de colère de Blight, qui n'est plus respecté. Et par là même, il découvre que les voiles ont moisi dans la soute. Bref, il n'y a rien qui va sur ce Bounty. C'est la loose. C'est pourquoi... Le 23 janvier, 8 membres de l'équipage, sur 42, décident de se barrer. Et ils se barrent avec quoi ? Eh bien avec le Bounty. Ils demandent très gentiment au capitaine et au reste des membres de descendre sur un canot. et d'aller se faire 30 000 marins. Donc c'est encore plus énorme que ce que eux ont fait après le Cap Horn pour la rejoindre une île. Et puis vaille que vaille, ciao bye mon poteau. Ce qu'ils décident de faire, ceux qui se sont éloignés du bateau et qui se sont mutinés, eh ben ils prennent le Bounty, ils sont à Tahiti, tout va bien, et puis sinon ils font bon. Il y a, on n'a pas envie de rentrer en Angleterre. On sait que si on rentre en Angleterre, on va se faire arrêter pour mutinerie. Ben qu'est-ce qu'on fait? On a qu'à laisser le Bounty, le cramer, et puis pécho de la Tahitienne pour s'installer et fonder une famille là-dessus. Alors c'est ça qui est assez dingue, c'est que du coup ils ont réussi à vivre pendant un an complètement coupés du monde, et bien évidemment ils se sont fait retrouver par Blight voilà exactement, quand on a la rage on a la rage, qui les a très gentiment décapités directement sur l'île. Et alors c'était quelqu'un de fin, puisque du coup il a décapité évidemment les marins, mais les Tahitiennes aussi qui lui ont servi de femme, et les 32 enfants. Donc on rappelle qu'ils étaient 8, il y a eu 32 enfants.
Productif.
C'est ça.
Et voilà. Donc sur cette jolie histoire, nous ben finalement on est bien content d'avoir un temps pluvieux à Bordeaux et d'être ici. J'ai pas grand chose de plus comme conclusion, mais voilà, je trouvais l'histoire assez folle pour être racontée, pour que tout le monde la sache.
En tout cas, le jour où on sera à court de café à la Méba, j'espère qu'on n'aura pas à faire tout ça. Hein.
Ouais, oh, exactement, parce que
ce sera pas loin.
Ouais,
Guillaume sera notre
blague. Voilà, c'est ça. Il va falloir m'attacher à la cave, je crois.
Avant que tu nous attaches, qu'on t'attache dans la cave. Est-ce que tu veux bien nous parler d'actu, Guillaume?
Non, mais bien sûr, mais avant, je vais demander à Philippe de lancer le superbe jingle. Qui m'avait manqué ce jingle? Bonjour et bonne année à tous. Oui, je redis bonjour parce que c'est ma chronique, donc je redis bonjour.
C'est toi le patron.
Donc je suis ravi d'être de retour, et en plus
bonjour,
sans
Guillaume.
Richard, pour cette toute première chronique d'actualité européenne de 2018. Franchement, elle s'annonce sous les meilleurs auspices. Que s'est-il passé en Europe ces derniers temps? Je vous fais le topo. Et je commence cette chronique, ça va pas vous surprendre si vous êtes des auditeurs réguliers de l'émission, par un point sur la Catalogne en Espagne. Si ce sujet constituait déjà un vrai petit feuilleton en 2017, il semble en être de même en 2018. Reprenons donc là où on en était. Les élections régionales anticipées du 21 décembre 2017 ont finalement donné une majorité relative au bloc des formations indépendantistes. Les trois partis politiques, Ensemble pour la Catalogne, Gauche républicaine de Catalogne et Candidature d'Unité populaire, totalisant à eux trois 47,5% des voix et 70 sièges sur les 135 que compte le Parlement catalan, tandis que le bloc unioniste, donc contre l'indépendance de la Catalogne, composé des centristes de Ciudadanos, du Parti populaire catalan et du Parti des socialistes de Catalogne, ont obtenu 43,5% des voix et 57 sièges. Les sièges restants, au nombre de 8, ont été quant à eux attribués à la coalition Catalogne en commun et Podemos, qui défend l'idée d'un référendum sur l'indépendance mais sans se positionner pour ou contre, et affirme la prévalence de la défense des droits sociaux sur la question indépendantiste. Toujours en exil à Bruxelles en Belgique, l'ancien président de la Catalogne, Carl Puigdemont, a réagi à ces résultats en déclarant avoir obtenu une victoire que personne ne peut discuter, et que le premier ministre espagnol Rajoy n'a pas obtenu le plébiscite qu'il cherchait. Très enthousiaste malgré le fait qu'il soit toujours poursuivi dans son pays pour rébellion et sédition, il affirme être prêt à diriger la Catalogne depuis la Belgique, ce qui sera en tout point novateur et pas du tout du goût du gouvernement national espagnol. En effet, de son côté, le premier ministre Rajoy a déclaré qu'il était totalement illégal, juriste à l'appui et démonstration juridique à l'appui, que Carl Puigdemont soit investi président à distance, et que si cela devait se produire, le gouvernement déposerait un recours immédiat et la région de la Catalogne resterait sous la tutelle du gouvernement espagnol. On le voit donc, malgré les élections régionales anticipées, il y a toujours des tensions, la situation est plus incertaine que jamais, et en tout cas les tensions perdureront encore jusqu'à l'investiture du nouveau président catalan, qui est prévu à la fin du mois. Et jusqu'à présent, vu qu'il n'y a que Carl Puigdemont comme candidat pour prendre la présidence du Parlement catalan, les choses ne vont pas, peut-être pas s'arranger. Enfin, on verra. On suivra ça.
C'est compliqué.
Affaire à suivre.
Oui. Dans le reste de l'actualité européenne, maintenant. Je l'aime bien aussi, ce jingle. On reste dans la crise politique. Ah oui, on y est tellement bien. Allemagne, excusez-moi. Allemagne, se dirige-t-on vers une nouvelle coalition gouvernementale SPD-CDU? Alors, après avoir juré que le SPD, donc le principal parti de gauche-centre-gauche, ne formerait aucun gouvernement de coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel, Martin Schulz, le leader du SPD, a finalement accepté, pour honorer ses responsabilités vis-à-vis du pays qui se trouve toujours sans gouvernement majoritaire depuis les élections législatives du 24 septembre 2017, ça commence à faire long, de discuter avec elle, donc avec Angela Merkel. Finalement, après de multiples tractations, un début d'accord de gouvernement a été trouvé le 13 janvier dernier. Il a ensuite été approuvé au terme de débats très vifs par les délégués du SPD réunis à Bonn dimanche dernier. Il reste encore beaucoup à faire car fin février, ce seront les militants du SPD qui devront approuver cet accord. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait débat au sein du parti. Et nous suivrons la continuation de ces événements de très près. Oui, Ingrid ?
Est-ce qu'on peut lancer un petit, un sondage, un pari, à votre avis, que vont dire les militants du SPD ? Est-ce qu'ils vont être d'accord pour la coalition ou pas ? Les JRE lancent les paris. Je parie 1 euro.
Tu mets 1 euro sur quoi ?
Je mets 1 euro sur le fait qu'ils acceptent.
Ouais,
mais je suis pas d'accord.
Plutôt d'accord avec toi.
Moi, je pense qu'ils ne vont pas accepter parce que le président des jeunes du SPD a déjà dit qu'il était farouchement opposé à cet accord. Mais après, on verra.
Ouais, mais après, on a vu des gens farouchement opposés qui, finalement, ont dit « Oh, c'est bien pratique !»
Bah oui, même Martin Schulz, il a promis du coup que la coalition se ferait plus jamais. Et puis finalement, après quelques il faut juste un peu réclamer un petit peu et ça, finalement, il a changé d'avis. Donc
Dupont-Aignan qui était farouchement opposé à Marine Le Pen, mais voilà. Toi, premier ministre. Bon, voilà. Dans ce domaine-là,
c'est vrai que la politique a montré, surtout ces dernières années, qu'elle était totalement imprévisible. Donc malin, prédire ce qui va se passer.
La suite au prochain épisode.
C'est un petit peu ça.
Exactement. Ingrid ?
Non, j'ai encore une toute petite rubrique. Philippe ? Super, merci Philippe. Et enfin, donc, agenda culturel et découverte en Europe, aujourd'hui le Portugal. Et nous partons visiter la tour de Belém à Lisbonne, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette tour rappelle les découvertes maritimes qui ont marqué le monde moderne. Construite au début du XVIe siècle pour garder l'entrée du port de Lisbonne, elle se situe tout près du monastère des Hiéronymites, également inscrit au patrimoine de l'UNESCO. De style manuélien, cette tour témoigne de l'art portugais à son apogée. Si vous ne l'avez pas encore visitée, de même que le Portugal, c'est une bonne idée pour 2018. Voilà, donc c'est tout pour moi, Ingrid.
Oui, bah pour terminer l'émission, moi je propose cette semaine un petit agenda culturel des choses à faire sur Bordeaux et ses alentours, si ça vous dit.
Cool.
Si vous avez besoin d'idées, moi j'en ai plein. Ça commence dès ce soir avec un ciné-club allemand à 20h au Goethe Institute, et on prononce Goethe et pas Goethe, ce que j'ai appris cette année. Oui, voilà, je suis pas très forte en allemand, mais j'apprends. Le film, c'est Ma très grande faute de Gerd Schneider, et c'est une bonne façon de fêter les 55 ans de l'amitié franco-allemande et du traité de l'Élysée, qui a été signé il y a 55 ans, hier, plus un jour donc. Ensuite, mercredi, c'est à la Maison de l'Europe que ça se passe. On vous invite tous à la journée de l'avocat en danger, c'est à 11h, et on va vous parler du coup de tous ces avocats qui subissent des persécutions ou qui ont carrément été assassinés ou menacés. C'est une journée présentée donc par nous les volontaires, ainsi que surtout l'IDAE, qui signifie Institut des droits de l'homme et des avocats en danger, quelque chose comme ça. Bon, à peu près, quoi.
Absolument.
En tout cas, venez nombreux, ça sera hyper intéressant, et on parlera surtout notamment des avocats égyptiens, donc. Ensuite, le soir, rendez-vous à la Tencha pour Uber ou l'argent d'Uber, une soirée découverte pour tous ces coursiers qui nous livrent nos repas quand on a la gueule de bois et qu'on n'ose pas sortir en pyjama. Au programme, théâtre, débat, discussion et bien d'autres, et c'est à 19h. Voilà, ils ont choisi un super nom, donc rien que pour ça, on peut y aller. Ensuite, jeudi, c'est vernissage au musée des arts décoratifs de Bordeaux pour l'exposition L'image livre, éditeur et artiste de l'avant-garde tchèque. Donc l'avant-garde tchèque, c'est vers 1920-1930, autour de la collection de l'historien du graphisme Pierre Ponant, et notamment des œuvres qui viennent directement du musée des arts déco de Prague, entre autres. Et donc, si vous ne pouvez pas voyager en Europe, c'est l'Europe qui vient à vous. Rendez-vous jeudi soir. Vendredi, politique, rencontre avec Vincent Feltès, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine et ancien président de la CUP, qui vient présenter son dernier livre, et si tous s'était passé autrement. Et oui, Vincent, si tout s'était passé autrement, peut-être que tu serais président, je ne sais pas. Pour son travail de conseiller politique sous le quinquennat Hollande, le tout à la Zone du Dehors, une librairie qui se trouve cours Victor Hugo. Samedi musical au Rocher de Palmer, avec des groupes participants au tremplin d'Action Jazz, venez soutenir votre projet musical préféré samedi soir. Et dimanche, église, évidemment, non, je ne vous fais pas de blagues, c'est à la paroisse Saint-Louis des Chartrons pour un concert de gospel proposé par la Bordeaux Gospel Academy. Voilà, je vous donne donc rendez-vous à l'église pour un bon dimanche. Si jamais il pleut, en plus, ça va être super, ça va donner un peu d'énergie. Et enfin, pour terminer, lundi, on vous attend bien évidemment à 19h pour la soirée géorgienne à la Maison de l'Europe de Bordeaux, place Jean Jaurès, notre fief, notre QG, notre petite maison à nous. Au programme, exposition de calligraphie géorgienne, ça va être super beau, présentation du pays par Magda et Chaco, nos volontaires géorgiens, petit four et surtout, tcha-tcha, bonne semaine.
Merci beaucoup Ingrid.
Merci, bonne semaine à vous.
On finit cette émission et on remercie évidemment tous les journalistes qui y ont participé. On remercie Philippe en régie qui, comme d'habitude, a fait un travail magistral. Ça, c'est
bravo
à chaque
Philippe.
Fois. On vous donne rendez-vous mardi prochain. Même jour, même heure, même port. 91.3, la radio des Hautes-Garonne. Bon après-midi sur Eau de Radio.